16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, je suis Mathieu Noël, ravi de vous retrouver pour Historiquement Vôtre. Deux heures d'histoire sans se la raconter, avec celui qui pourtant, vu sa carrière, pourrait se la raconter grave. Il est dans le métier et au-delà dans ma vie. Ma boussole, mon repère, mon guide, mon étoile du berger, ma référence absolue.
Juste après la Bible.
Juste après. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à tous. Chaque jour de 16h à 18h sur Europe 1, nous vous proposons de revisiter l'histoire avec trois personnages marquants qui n'ont rien à voir sur le papier, qui pourtant, à bien y regarder, ont au moins un point commun.
Ils n'auraient jamais dû se croiser, mais grâce à nous, ça va peut-être être le coup de foudre. Deux d'entre eux vous seront racontés par Stéphane Bern. Quant au troisième personnage, c'est mon coup de cœur, très personnel, moins historique peut-être, mais plus dans l'air du temps, vous verrez. Chacun ses références, mon cher Stéphane.
Oui, et aujourd'hui, Mathieu, c'est jeudi, donc on a choisi un thème adapté.
Oui, Stéphane, le jeudi est historiquement un jour assez pourri. Comme ce jeudi noir à la bourse en 29. Surtout, le jeudi pâtit de sa proximité avec le vendredi, à côté duquel il fait figure de rabat-joie, vu qu'on ne peut pas partir plus tôt du taf pour aller boire des spritz en terrasse. Du coup, Stéphane, nous avons choisi une thématique susceptible de redonner de l'éclat à ce jour un peu con qu'est le jeudi. Aujourd'hui, on va se marrer avec les rigolos de l'histoire. Alors vous, Stéphane, vous nous parlerez très doctement d'Aristophane et de Triboulet, le fou du roi François Ier. Quant à moi, quitte à vous choquer, je vous parlerai d'un rigolo plus proche de nous et dont on n'a jamais su s'il était vraiment drôle, volontairement ou malgré lui.
Bruno Le Maire.
Non, Stéphane, essayons de conserver des bonnes relations avec l'exécutif. Non, Jean-Claude Van Damme, dont je vous livrerai tout à l'heure un portrait authentique à peu près 99%.
Bon, vous l'avez compris, historiquement vôtre, c'est toute l'histoire. La grande, la petite, la moyenne, celle d'hier, celle d'aujourd'hui, au sommaire aujourd'hui, en plus de ces sacrés rigolos, et comme chaque jour, il remonte à sa manière aux origines souvent étonnantes d'un objet de notre quotidien. Aujourd'hui, David Castello-Lopez nous raconte les origines des pailles.
Ça va vous plaire ça, Stéphane? Vous faites ça avec la paille ou pas?
Non, j'ai interdit les pailles chez moi depuis, parce que contre le plastique, etc.
Ah oui, contre le plastique, j'ai cru que pour ne pas entendre ce bruit particulièrement agaçant.
Il y a le bruit, mais il y a surtout la paille, c'est une atteinte contre la planète, voyez-vous. Clémentine Portier-Kaltenbach nous fait pénétrer, sur la pointe des pieds, dans l'intimité de l'histoire, à la découverte des petits secrets des grands de ce monde. Elle nous dira pourquoi, à Athènes, certaines femmes ont fait la grève du sexe.
Eh oui. Mon Dieu, heureusement qu'on ne vit pas à Athènes, Stéphane.
Mais ça peut vous arriver.
J'espère pas.
Et avec Olivier Pouls, notre spécialiste de la bonne chère, nous savourons l'histoire de la cuisine. Aujourd'hui à l'honneur, le piment d'Espelette.
Sans oublier notre quiz, Stéphane. Burn to be alive, dans lequel chaque jour, mon cher, vous tentez de ne pas perdre la face en répondant à mes questions qui, je l'admets, sont parfois un peu piégeuses.
Bon, c'est bien de l'admettre déjà. Chaque après-midi, il ouvre le bal et remonte aux origines. Bonjour David Castello-Lopez.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, vous nous parlez des pailles,
et
c'est
tout
ça?
Tout à fait, dans quelques instants.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre. Cet après-midi, avec Mathieu Noël, on vous raconte les destins incroyables des sacrés rigolos de l'histoire. Le grec Aristophane, Triboulet, le fou du roi François Ier.
Et aussi, Stéphane, ne l'oublions pas, j'ai l'impression que vous avez tendance à le mettre sous le tapis, Jean-Claude Van Damme, le bouffon d'Hollywood.
Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent.
Et oui. Oui, c'est drôle. Et pour commencer cette spéciale rigolo, quoi de mieux que notre rigolo à nous? Eh bien oui, comme chaque jour, il nous raconte les origines d'un objet de notre quotidien. C'est David Castello-Lopez.
Bonjour Mathieu.
Bonjour
Stéphane.
David.
Bonjour. Alors oui, on l'a dit, aujourd'hui je vais vous parler des origines d'un objet d'une simplicité absolue, hein, puisqu'il est majoritairement constitué de vide et que sans ce vide, il ne serait d'aucune utilité. C'est la paille. Et je ne parle pas de la paille sur laquelle on dort dans les romans du 19e siècle.
On fait plus qu'y dormir.
Voilà, je parle de la paille qui sert à boire et qui pendant un temps était effectivement la même que celle sur laquelle on dormait dans les romans du 19e siècle. Je vais en particulier vous parler d'une sous-catégorie de la paille qui est la paille coudée. Hein, celle dont on peut courber la partie supérieure à 90 degrés, difficilement plus de 90 degrés. D'ailleurs, j'en ai une ici, vous voyez, je fais ça, hop,
ça remonte,
etc. Alors, bien sûr, si on est chaud, on peut forcer comme un bourrin, on peut arriver à 150, 160 degrés, mais ça commence à nuire à l'intégrité de la paille, et ça, on veut pas. Ces pailles aussi, que personnellement, j'adore, parce que quand on les plie, elles font un bruit.
Oh, voilà, ce petit
bruit. Et en préparant cette chronique, je me suis même rendu compte que si on coupe la paille, eh bien le bruit obtenu est légèrement plus aigu. Regardez, je l'ai coupée celle-ci, hein, je l'ai devant moi. Et j'attends un concerto pour paille, hein, pour paille coudée
très
et orchestre,
bien,
puisque
en
les coupant, elles peuvent faire des notes de musique.
Mais vous êtes passé à 3 séances de psy par semaine.
Voilà, je fais ce que je peux, mais ça, c'est aussi une thérapie ici. Hein, voilà. Alors d'abord, d'où ça vient la paille normale, hein, la paille pas coudée? Eh bien, on s'en doute, ça existe depuis ultra longtemps, probablement depuis les débuts de l'Homo sapiens, et peut-être même avant. Je dis ça parce qu'il y a certains singes qui, quand on leur donne une paille, ont tout de suite l'idée de s'en servir pour siroter du Schweppes, vous voyez, ou du Coca, ou du jus de Quetsch Pampril, parce que c'est qu'il faut citer deux autres marques quand on en cite une. Et l'utilisation de la paille par les singes, ça tend à montrer que la paille et sa méthode d'utilisation sont ancrées au plus profond de nos intuitions. Juste après le fait de mettre un pied l'un devant l'autre pour marcher et d'avoir du mal à continuer à danser sur Michael Jackson depuis qu'on sait ce qu'on sait. La première représentation humaine d'une paille, en revanche, elle est nécessairement plus récente que ça. Elle date de 3000 avant Jésus-Christ sur une tombe sumérienne.
Ah oui.
Et voilà, je dirais qu'entre 3000 avant Jésus-Christ et le 19e siècle, l'histoire de la paille est assez calme. Hein, y a pas d'innovation majeure. Et là, un jour, dans les années 1880, il y a un monsieur américain qui a une idée. Je suis désolé, il y a beaucoup d'Américains dans mes chroniques, mais j'y peux rien. Ils ont plein de défauts, les Américains, mais quand il s'agit d'inventer des trucs, ils nous défoncent quand même pas mal comme il faut. Un monsieur américain, donc, qui s'appelle Marvin Stone et qui a l'idée de rouler une bande de papier sur elle-même et de l'imperméabiliser, pardon, c'est dur à dire, avec de la paraffine et de la vendre. Et c'est la naissance de la paille artificielle jetable, voisine de celle qu'on connaît aujourd'hui. Mais, il a fallu attendre 50 ans pour que la dernière innovation majeure de la paille jaillisse, grâce à un monsieur qui s'appelle Joseph Friedman et qui était inventeur. En 1937, Joseph, il est avec sa fille dans le café tenu par son frère à San Francisco. Sa fille, sa petite fille, donc, est au comptoir, et il remarque qu'elle a des difficultés à boire son milkshake avec la paille toute droite parce qu'il faut qu'elle se mette au-dessus et comme elle est toute petite, c'est dur.
Oh, la chounette.
Mais oui, alors il rentre chez lui avec une de ses pailles en papier et il se dit que ce serait cool qu'on puisse plier la paille. Et le problème, c'est que si on plie une paille, eh bien, les deux bords se touchent. Regardez, encore une fois, j'en ai amené une ici.
Montrez-lui plutôt la démonstration, voilà. Très radiophonique.
je décris en même temps, bien sûr. Quand on plie la paille, oui, les deux bords se touchent et là...
Ça
fonctionne plus du tout.
Non.
Et Joseph, il a l'idée de mettre à l'intérieur de sa paille une vis et d'enrouler du fil dentaire autour du filetage de cette vis pour créer une sorte de mini accordéon et la paille coudée.
Stéphane est passionné par ce sujet sur la paille. Hein.
Je fais ce que je peux, c'est quand même de la paille coudée qu'il s'agit.
Mais c'est énorme.
Mais quel acteur.
Et vous savez quel a été le premier domaine dans lequel la paille coudée a eu du succès?
Eh bien, dans les fast-foods.
Eh bien non, dans les hôpitaux. Les gens, ils sont malades pour boire. Et donc, la paille coudée fait des merveilles dans les hôpitaux. Bon, ensuite, les pailles ont commencé à être faites en plastique et on les a un peu oubliées jusqu'à ce qu'il y a 5 ans, une vidéo sur YouTube montre ces fameuses images d'une tortue avec une paille dans le nez. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Pour dénoncer.
Exactement.
C'est à partir de là que Stéphane a interdit les pailles chez
lui. Et donc la tortue a l'air de s'ouvrir énormément. Et donc il y a une sorte de levée bouclier mondial écologiste contre les pailles en plastique, dont vous faites partie, Stéphane, de façon très, très bien. Quoi.
Et donc, de façon très bien. Un bel engagement. Si vous cherchez un slogan pour votre engagement, engagez de façon très bien, Stéphane. Ouais. Hein. Moi j'adore.
En tout cas, de façon très sincère.
Plus de plastique chez Berne.
Plus de paille en plastique.
Plus de paille, pardon.
Plus de paille. Aujourd'hui, la paille, c'est donc devenu un ennemi, un peu comme le 4x4 ou l'avion. Et ironie de l'histoire, on en revient de plus en plus aux pailles en papier qui sont les mêmes que celle de Marvin Stone.
Ah, vous en avez trouvé?
Mais oui. Et j'en ai acheté une cette semaine, vous voyez. Hein, c'est exact. Et pour les besoins de cette chronique, je l'ai ouverte même. Vous voyez, j'en ai ouvert un exemplaire. Et c'est exactement en fait la même que la paille de Marvin Stone qu'il a brevetée en 1887.
Incroyable. Bravo, et vous allez même l'offrir à Stéphane Bern, car votre budget est illimité.
Honnêtement,
on peut boire sans paille aussi.
Bien sûr. D'ailleurs, c'est marrant de voir qu'il y a quand même des boissons que c'est interdit de les boire avec des pailles. On le fait pas. Les boissons chaudes, par exemple. Pas de paille.
Ouais, parce qu'il peut y avoir une mauvaise surprise, une boisson chaude
peut-être,
avec une paille.
Peut-être un peu trop chaude. Les boissons,
et surtout, il ne faut pas mettre de plastique dans une boisson chaude.
C'est un débat qui peut nous emmener très loin, peut-être sur des terrains philosophiques où nous ne serions pas suffisamment compétents. Merci David Castello-Lopez.
Merci
à demain pour une nouvelle plongée aux origines d'un objet.
Europe 1, historiquement vôtre.
Chaque jour, une thématique et les portraits de trois stars de l'histoire. Vous écoutez Historiquement Vôtre. Aujourd'hui, Stéphane, nous évoquons les rigolos de l'histoire. D'Aristophane à Triboulet, le fou du roi, en passant, j'ai envie de dire évidemment, par Jean-Claude Van Damme. Vous qui avez interviewé les plus grands, Stéphane, est-ce que vous avez déjà croisé le chemin de Jean-Claude Van Damme?
Bien sûr, je fais plein d'émissions avec lui.
C'est vrai. Et alors, est-ce qu'en coulisses, il est à la hauteur de sa légende? C'est-à-dire, est-ce qu'il c'est un personnage ou il est vraiment comme ça en antenne aussi?
Ah, c'est un vrai personnage. Il veut absolument vous convaincre de choses qu'il pense avoir comprises.
Ah non, et il est comme ça dans la vie aussi.
Il est vraiment comme ça dans la vie, oui.
Mais c'est intéressant.
Et ses explications rendent tout plus obscur. Voilà.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre. 2 heures pour découvrir le lien parfois étonnant qui relie 3 figures de l'histoire. Enfin, 2 et demi. Parce que Mathieu Noël, qui est en charge du 3e personnage, plus contemporain, ne peut s'empêcher de mettre son grain de sel.
Je vois absolument pas ce que vous voulez dire, Stéphane. Je suis toujours pile dans la thématique. Aujourd'hui, les rigolos de l'histoire, vous faites Aristophane et Triboulet. Je fais Jean-Claude Van Damme. Chacun son métier. Et justement, il est temps de faire le vôtre, Stéphane.
Historiquement vôtre. Le récit.
J'ai envie de commencer par un peu de poésie grecque.
Ça va nous changer.
Si nous nous dérobions à nos maris au lieu de nous livrer quand ils sont en érection et brûlants de désir, ils feraient vite la trêve, je le sais bien.
Qu'est-ce qui vous arrive, Stéphane ?
Non, c'est simplement un extrait de Lysistrata d'Aristophane que vous auriez pu entendre à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ si vous étiez rendu au théâtre de Dionysos. Un lieu qui pouvait accueillir près de 20 000 spectateurs.
Époque bénie d'avant le coronavirus.
Ce qui est vrai aussi, c'est que des 45 tragédies comiques composées par Aristophane, seules 11 nous sont parvenues. Et pourtant, son œuvre est la seule qui nous reste de la comédie grecque telle qu'elle se jouait à Athènes. Certains estiment que cet auteur, poète, est le père de la comédie.
Mais d'autres disent que c'est Roland Magdan.
Non.
Ça se discute quand même.
Avant tout le monde. Mais est-il vraiment le premier comique de l'histoire ? Difficile de répondre, même 2500 ans après sa mort. Une chose est certaine, toute sa vie, Aristophane fait rire, mais dérange également. Le simple citoyen athénien, le politicien avide de pouvoir, ou encore le philosophe un peu trop suffisant à son goût. Personne n'est épargné, Mathieu. Mais pour le poète, rire est bon pour la santé et surtout pour la sauvegarde de la démocratie. La satire contre les méchants n'a rien d'odieux. Elle est, pour tout homme sage, un hommage à la vertu, disait Aristophane, dont la vie est difficilement retraçable avec précision.
Oui, je vous connais Stéphane, quand vous dites ça, c'est que vous allez être approximatif dans la suite de votre récit.
Je vais pourtant essayer de ne pas l'être, cher Mathieu. Aristophane voit le jour aux alentours de 445 avant Jésus-Christ. Il faut savoir qu'il n'y avait pas le code civil, il n'y avait pas l'état civil, il n'y avait pas les papiers. Oui, on ne sait pas la date de naissance des gens.
Vous parlez vraiment comme un demeuré, Stéphane. Je sais bien que le code civil, c'est Napoléon, donc c'est pas. Je sais bien que c'est pas la Grèce antique. Oui, je le sais. Je sais 2-3 trucs parfois, Stéphane, vous savez.
Incroyable, vous m'épatez. Alors, dans le dème de Sidathénéon, près d'Athènes, en Grèce antique, Aristophane est le fils de Philippos le comique. Bon, ça ne s'invente pas.
Philippos le comique, ça s'invente.
Il y a des surnoms. Vous avez un autre surnom.
Mais... Je vous en prie, mais on ne le révélera pas aujourd'hui.
Oui. Très tôt, Aristophane affiche un goût prononcé pour le théâtre. Il écrit 2 pièces. Les Détaliens en moins 427 et les Babyloniens en moins 426. Ces pièces, dont on n'a plus de traces aujourd'hui, sont jouées à l'époque sous pseudonyme. Ce sont des satires politiques et au début de sa carrière, Aristophane veut éviter de s'attirer les foudres du pouvoir en place. Pourtant, un homme est indirectement attaqué. Le chef du parti démocratique, Cléon. Athènes est en pleine guerre du Péloponnèse face à Sparte. Pendant les 30 années que dure le conflit, de nombreux jeunes Athéniens meurent au combat. Aristophane, profondément pacifiste, ridiculise Cléon qui, lui, prône la violence et la guerre. Aristophane le présente comme un être parvenu, sans éducation, violent et vantard, comme ici dans Les Cavaliers quand le personnage de Cléon répond à son adversaire. Alors Mathieu ?
Oui. « Mais, espèce de gredin, tu n'inspires aucune confiance au peuple, tandis que moi, je me moque de lui comme cela me plaît. »
Le génie d'Aristophane, voyez-vous, est de faire cohabiter dans une seule pièce différents procédés comiques très novateurs pour l'époque. La caricature, la satire, la parodie, l'exagération. Il n'hésite pas à insérer des blagues salaces, des scènes fantaisistes, comme dans sa pièce « Les guêpes ».
Vous avez des détails sur ces scènes salaces, Stéphane ?
Oh, vous imaginez.
J'imagine, mais...
Oui, on parle du dieu Priap. Malgré les précautions prises par Aristophane pour assurer son anonymat, il est démasqué par Cléon. Le politicien le poursuit en justice pour calomnie envers la cité. L'issue du procès reste opaque, mais qu'importe. Ces pièces sont plébiscitées, obtiennent de nombreuses récompenses lors des Dionysies ou pendant les Lénéennes, ces grands rassemblements de théâtre, clôturés par une remise de prix.
C'est donc l'ancêtre du Festival de Cannes ou d'Avignon, mais à Athènes.
Tout à fait, Mathieu. Mais à l'époque, pas de tapis rouge ni de robe de grand couturier. Les acteurs jouent masqués, c'est de tendance aujourd'hui, et les femmes sont interdites de scène. Quoi qu'il en soit, Aristophane a un don pour faire rire les spectateurs. Mais lui, il y a un homme qui ne le fait pas du tout rire. Un philosophe très réputé à qui il ose s'attaquer.
Alain Finkielkraut.
Non, son ancêtre, beaucoup plus ancien, mais pas de beaucoup. Patience, Mathieu.
Mais donne-nous le nom.
Non, je vous raconte la suite juste après. C'est l'heure de se restaurer chez les Grecs. Le symposium, le banquet, ne sera sous aucun prétexte.
Vous êtes incorrigible.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Alors, une fois de plus, vous vous êtes interrompu, Stéphane, dans votre récit. Repartons 2500 ans en arrière, au 5e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce et plus précisément à Athènes. La cité-État n'est pas au mieux de sa forme, mais un homme tente de résister en maniant l'humour comme d'autres manient le sabre. N'est-ce pas, mon cher Aristophane ?
Très drôle, Mathieu, mais quel humour.
Je suis assez content de cette
vous chose. Auriez pu figurer dans des comédies d'Aristophane dont je vous raconte l'histoire aujourd'hui.
Et lesquelles, par exemple ?
Je ne sais pas, les grenouilles, les guêpes, vous qui êtes si piquant.
Quelle ordure.
Revenons à notre poète. Sa ville, Athènes, sort à peine de la guerre du Péloponnèse. Le conflit, qui a duré 30 ans, a causé de grands dommages. De nombreux Athéniens sont morts et les campagnards très appauvris. Aristophane continue, lui, à multiplier les attaques contre le pouvoir en place, mais toujours avec humour et décalage. Les intellectuels, les auteurs ne sont pas épargnés. L'une de ses cibles favorites, le tragédien Euripide. Dans les Thesmophories ou les Grenouilles, il le couvre de ridicule, le représente assis, les pieds en l'air.
Aujourd'hui, c'est plus ridicule, c'est une position de yoga, ça, la grenouille.
Non, pauvre monde. Non, dans ces tragédies, Euripide met en scène des rois épiques, des boiteux, donc. Aristophane l'empêche à son tour de se mettre sur ses jambes. Et comme il est boiteux, il va donc écrire, selon Aristophane, des tragédies qui ne tiennent pas debout. Le poète s'en amuse publiquement.
L'humour de l'époque est sacrément cocasse, Stéphane.
Oui, l'humour d'Aristophane lui permettait surtout d'aborder tous les sujets. Les politiciens, la guerre, les femmes. Aristophane ne s'interdit aucun thème. Et les philosophes, évidemment.
Ah, vous nous avez toujours pas donné le nom de ce philosophe qui les gratigne.
Aristophane ose s'attaquer à un monument. Il s'attaque à Socrate.
Carrément. Il est complètement fou.
Oui, Aristophane n'apprécie pas ce philosophe très réputé, car il le considère comme un sophiste, quelqu'un qui manipule les mots pour, au final, ne rien dire. Et il le parodie, comme dans cet extrait que je ne résiste pas à vous livrer. « Je marche dans les airs, je contemple le soleil. Crois-tu que j'aurais jamais percé le mystère du ciel si la subtilité de la pensée ne s'était amalgamée à la subtilité de l'air ?»
Ça me fait penser à Jean-Claude Van Damme, dont on va parler tout à l'heure. C'est digne d'une citation de Van Damme.
Oui, et ben c'est du Aristophane, voyez-vous. Aristophane qui aura donc créé un nouveau genre théâtral, la comédie, utilisant son théâtre comme une arme de propagande anti-guerre, redoutable. Pour lui, c'est la consécration. Je le cite pour terminer comme une leçon à garder. Il n'y a rien de plus beau que de vaincre ses ennemis par la force de son éloquence. C'est si bien dit.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour parler d'Aristophane, nous sommes avec Pierre Judet de Lacombe. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes helléniste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste évidemment de littérature grecque. Vous avez traduit les grenouilles d'Aristophane aux belles lettres, ainsi que l'Iliade d'Homère pour le volume Tout Homère paru aux belles lettres, et chez Albin Michel également. Aristophane, on dit qu'il est le père de la comédie. C'est vrai, c'est une légende. Qu'en pensez-vous, Pierre Judet de Lacombe?
Il est le père pour nous. Parce que c'est vrai, c'est le premier que nous ayons. Il y a eu deux générations de comédiens avant lui. On a les noms, donc quasiment rien. Chionides, on ne sait pas ce qu'il a fait.
On ne sait pas ce qu'il a écrit, on n'a pas de texte.
Non, on n'a pas de texte, on a quelques tout petits fragments. On a parfois ce qu'on dit à Aristophane quand il se moque d'eux. Puis on a des citations, mais très très peu, quoi. Donc ce sont les premiers textes que nous avons. Mais deux générations après le début de la comédie. On ne sait pas comment la comédie est née. C'était des jeux rituels phalliques, très souvent. Bon,
ah, vous voyez,
vous aurez plus, Stéphane,
oui,
ça. Hein.
Je ne sais pas, ça dépend si vous êtes de mon côté, Il fait rire les spectateurs, alors, c'est ce qu'on dit
énormément.
Alors, est-ce que on peut dire vraiment, sans se tromper, que c'est l'inventeur du genre comique?
Pour nous, oui. C'est-à-dire qu'il a même pour les anciens, c'est-à-dire que très vite, donc les autres ont été oubliés et on a gardé que ces textes. Donc, il y a eu un choix fait au IIIe siècle avant Jésus-Christ, disant voilà, il y a trois tragiques et il y a un grand comique, c'est Aristophane. Et malheureusement, alors qu'il y avait 200 auteurs comiques à Athènes, donc ça, on a perdu. Mais Bon, on sait, et puis en plus, Aristophane dit que lui, par exemple, il ne veut pas faire de comédie obscène, alors qu'il n'arrête pas, etc.
Donc vous voulez dire que les autres étaient encore plus obscènes ?
Alors, certainement, mais ça, on ne sait pas. En tout cas, les, par exemple,
mais pourquoi on n'a pas gardé les autres ?
Oui, c'est, bah, c'est
si
dommage.
Trouve, il y avait des perles.
Non, mais il y a tout, le peu qu'on a est effectivement très, très drôle, mais c'est simplement
Est-ce que c'est drôle pour nous aujourd'hui ? C'est-à-dire, oui, est-ce que c'est intemporel, comme les tragédies grecques, alors, ça marche encore
oui,
aujourd'hui ?
Oui, parce que quand on. C'est dur à comprendre. Bon, voilà, ça dépend aussi d'après les pays européens qu'on prend différemment selon nos idées de l'humour. Aristophane, c'est très proche de Coluche.
Ah ouais. Bah,
faut vraiment se dire ça. C'est un humour de ce niveau-là qui prend tout en dérision.
Il met toujours les rieurs de son côté.
Toujours. Et ça, les gens pouvaient donc rire avec lui, lui donner un prix et ensuite voter quand même pour celui qui vient de démolir. Donc,
alors, on va continuer de parler avec vous, Pierre G. de Lacombe, dans un instant. On va parler de ces sacrés rigolos de l'histoire. C'est le thème de l'émission du jour. Alors, on va parler notamment d'Aristophane, mais je crois que notre ami Mathieu Noël a d'autres surprises.
C'est possible.
Pour la suite.
Ici, Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Les rigolos de l'histoire, c'est notre thème cet après-midi dans Historiquement vôtre, l'émission qui chérit vos neurones sans oublier vos zygomatiques. Et là, on est en train de se fendre la poire avec Aristophane, pionnier de l'humour, s'il en est. On continue d'en parler avec vous, Pierre Judet de Lacombe.
Mais justement, est-ce que, aujourd'hui, vous savez, la grande phrase quand on parle des humoristes, est-ce qu'on peut rire de tout ? Est-ce que dans la Grèce antique, on pouvait rire de tout ? Et surtout, est-ce qu'il y avait des sujets sur lesquels on n'avait pas le droit de rire ?
Non, on peut rire de tout. Alors parfois, ça fait des grincements. Il y a eu des actions, mais on peut rire des dieux. Les dieux sont ridicules.
Le blasphème était autorisé.
Ah, absolument. C'est-à-dire que comme il n'y avait pas d'orthodoxie, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de clergé non plus, il n'y avait pas d'État non plus qui contrôlait. Donc tout était possible. Et alors certains, bon, pouvaient se faire parfois condamner, mais c'est très rare. Et je veux dire que tout du moment qu'on rit, et du moment aussi que la forme esthétique est belle, parce que la comédie, il faut voir, c'est pas le one man show, c'est-à-dire que c'était vraiment c'était choral, des spectacles qui coûtaient extrêmement cher.
Ah oui. Pourtant, il n'y avait pas beaucoup de costumes.
Si, il y avait des costumes. Tous les acteurs avaient un bon phallus en cuir bien rembourré, etc.
Ah oui.
Donc c'était obscène tout le temps, c'est-à-dire que.
Mais pourquoi c'était à ce point sexué?
Parce que la vie est sexuée peut-être et aussi
mais l'humour aujourd'hui c'est pas un genre très sexuel.
Non, parce que nous on a quand même passé par des siècles aussi un peu de répression, voilà, si on peut dire. Mais je veux dire que c'est parce que le sexe était vu alors de manière très très machiste. C'est joué par des hommes. Ce sont des hommes qui jouent des femmes jouant des hommes, etc. Donc c'était du machisme. Mais comme le machisme doit toujours s'argumenter parce que c'est quand même pas évident le machisme. Non. Et donc il faut trouver des arguments et parfois on donne la parole aux femmes. Ce sont les femmes qui sont plus viriles que les hommes. Etc. Et bon, et le phallus, c'est pas simplement la fécondité, tout ce qu'on dit, ça c'est un peu sage, c'est plaisir, simplement.
Si on devait lire du Aristophane aujourd'hui pour se fendre la poire, il faudrait dire quoi ?
Il faut tout lire. Dire que Lysistrata, c'est absolument fabuleux parce que c'est donc c'est du pacifisme tout à fait assumé, mais je veux dire tellement drôle puisque tout se renverse. Les Acarniens, quand vous avez un petit Athénien qui en a marre de la guerre parce que tout le monde est rassemblé à Athènes, il peut plus faire son commerce, donc il fait un traité de paix tout seul. Les Grenouilles, c'est extraordinaire, c'est donc sur la poésie, donc la poésie ancienne avec Eschyle et la poésie nouvelle avec Euripide. Bon, et les oiseaux, ça c'est extraordinaire. C'est une utopie, faire une ville avec des oiseaux, où on est, comment dire, dans les airs entre les hommes et les dieux. Et donc on est comme des oiseaux, on est léger, on chante, c'est très très beau. Mais comme ce sont des hommes qui deviennent des oiseaux, mais ils peuvent quand même, de temps en temps, en rôtir un, quoi.
Bon, en tout cas, je rappelle, merci Pierre Judet de Lacombe d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler d'Aristophane, dont vous n'avez pas fait que traduire les textes, parce que vous publiez un livre pour les jeunes, Zeus Transformer, pourquoi les dieux changent-ils si souvent d'apparence, chez Bayard.
Europe 1, historiquement vôtre.
L'histoire avec un grand H dans les livres, c'est bien, mais soyons honnêtes, la nature humaine est ainsi faite que nous voulons aussi savoir ce qui s'est passé dans les coulisses l'histoire. Et si on regardait par le trou de la serrure ? C'est ce que nous propose chaque après-midi Clémentine Portier-Kaltenbach.
Oui, aujourd'hui, Clémentine, vous allez justement revenir sur une pièce d'Aristophane, pas n'importe laquelle, Lysistrata, dans laquelle les femmes d'Athènes font la grève du sexe.
Elle va revenir quand elle sera là, parce qu'elle n'est pas encore au studio.
Elle fait la grève.
Oh non,
non.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
C'est si bon de passer l'après-midi avec vous pour parler d'histoire sans jamais se la raconter. Historiquement vôtre, c'est tous les jours trois personnages que les siècles séparent mais qu'une passion secrète relie.
Mon Dieu, vous vous exprimez si bien, vous êtes Stéphane Bern ?
Je le crains. Oui.
Faut me signer un petit autographe pour Fernande, c'est ma mamie. Pendant ce temps, on accueille celle qui maîtrise l'art du teasing comme personne. Elle n'a pas son pareil pour nous mettre l'eau à la bouche.
Un de ces quatre, je vais vous parler du prépuce de Napoléon.
Bon, alors ce prépuce, il arrive. Chaque jour, Clémentine Portier-Keltenbach nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde. Aujourd'hui, toujours pas de prépuce à l'horizon, Clémentine, et pas de sexe surtout, si j'ai bien suivi.
Ah oui, mais vous en avez déjà dit un mot. Je vais vous parler de Lysistrata, cette comédie d'Aristophane qui date de 411 avant Jésus-Christ. À votre avis, bah, si vous le savez déjà, moi je voulais vous coller et vous demander si les femmes à Athènes avaient caché les armes de leurs époux pour éviter la guerre ou si elles avaient fait la grève du sexe.
Oh, c'est plus efficace la deuxième.
Vous connaissez déjà la réponse. Donc Lysistrata convoque les Athéniennes et leur dit écoutez, maintenant il faut qu'on arrive à rétablir la paix entre nos cités. Donc refusez-vous à vos maris. Le nom même de Lysistrata n'a pas été choisi par hasard. Lysistrata, ça vient des mots grecs luo, qui veut dire délier, et stratos, l'armée. Donc littéralement, Lysistrata, c'est la femme qui délie l'armée. Alors elle réunit toutes ces femmes et elle leur fait prêter serment de façon très solennelle en disant « Pour moi, plus de galant, fut-il au dernier point persuasif et brûlant, et s'il osait user de force et de rigueur, je veux pousser à bout la femelle industrie et jure de rester dans les bras du vainqueur comme ferait un marbre immobile et sans vie. » La grève du sexe pour Lysistrata et Aristophane, c'est ça. Pourquoi écrit-il cette pièce à ce moment-là? Parce qu'Athènes était en guerre, depuis quasiment 20 ans, 411. Les Grecs avaient mené une expédition absolument désastreuse en Sicile. Athènes était abandonnée de ses alliés, à bout de ressources. Donc c'était vraiment le moment ou jamais de dire maintenant, ah, il faut en finir. Alors ce qui est amusant dans cette pièce, c'est qu'en fait Aristophane s'amuse à mêler les conflits de l'État aux détails les plus intimes de la vie quotidienne. En fait, vous voyez, c'est une sorte de guerre des sexes sur fond de guerre entre cités, et le tout sur un ton des plus licencieux. Hein. C'est Aristophane, et notamment un des aspects amusants de la pièce, enfin donc, quand elle est mise en scène, c'est que tous les hommes, tous les personnages masculins portent un gros phallus. Mais enfin, si vous voulez, derrière tout ça, il y a quand même une vérité profonde. C'est d'abord l'émotion des jeunes Grecs, les jeunes femmes, dont tous les jeunes gens vont à la guerre, elles ne trouvent plus de mari. Et puis Lysistrata, ça pose une autre question, c'est celle de la place des femmes dans la cité grecque, parce que dans ce monde grec, on y vénère des divinités féminines, bien sûr, mais la femme est plus éloignée de la citoyenneté qu'un étranger ou un esclave. Donc il y a l'argument et la vérité profonde que veut délivrer Aristophane derrière. Alors finalement, vous en doutez, Lysistrata, tout est bien qui finit bien, tout le monde se réconcilie,
et tout le monde
allez hop, festin, chant, danse animée, tout le monde au lit, très bien. Bon, alors, mais la grève du sexe de Lysistrata et ses copines, ça a été pratiqué depuis moins 411 avant Jésus-Christ, notamment en 2002 au Libéria, initiative de Lémaque Bowie, qui était lauréate du prix Nobel de la paix en 2011, pour obliger le président Charles Taylor à associer les femmes au processus de paix. Ça a été fait aussi, grève du sexe, en 2012 au Togo. En 2008, ça a pris des proportions étonnantes, avec un slogan « pas de réforme, pas de sexe ». Et les femmes qui faisaient la grève du sexe ont proposé aux prostituées de les payer pour les associer à la grève. En Colombie, il y a des femmes qui ont fait la grève du sexe pendant 3 mois parce qu'elles trouvaient que leur village était enclavé, qu'il fallait créer une route, et ça a fonctionné. Et la route a été créée. Donc, vous voyez, la grève du sexe, c'est vraiment un moyen de lutte non violente qui a fait ses preuves depuis Lysistrata d'Aristophane, moins 411 avant Jésus-Christ, jusqu'à Lémaque Bowie, prix Nobel de la paix en 2011. Ça fait 2600 ans au cours desquels la grève du sexe, eh ben, ça fonctionne.
Et Dieu sait que vous avez mené de ces combats, hein, Clémentine.
Ah ben, vous 2600 ans, vous pensez, oui.
Merci Clémentine Portier-Keltenbach. Restez avec nous, parce que ça va être l'heure de notre fameux duel, ouais, où j'ai pour consigne de vous laisser gagner.
Oh, vous n'avez aucune consigne, Stéphane,
c'est
vous
facile,
faites de votre mieux et simplement vous n'y arrivez pas, Stéphane. Voilà la vérité nue.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre, 2 heures pour évoquer 3 figures de l'histoire autour d'un thème commun. Aujourd'hui, on parle des rigolos de l'histoire. Aristophane, le père de la comédie, Triboulet, le bouffon de François Ier, et leur fils spirituel, Jean-Claude Van Damme. Liste à laquelle on aurait pu ajouter un 4e rigolo, car c'est quelqu'un qui, chaque jour, nous fait énormément rire, surtout de par les réponses saugrenues qu'il donne durant le quiz. C'est vous, Stéphane Bern. Êtes-vous prêt à jouer à Bern to be Alive? Vous ne me répondez pas parce que je ne sais pas si vous êtes prêt, mais moi j'ai décidé que vous étiez prêt.
D'accord.
Stéphane, première question, c'est pour vous. 1964, c'est l'invention de la souris d'ordinateur. On l'a appelée ainsi parce qu'on a utilisé de vraies souris pour inventer cet accessoire. Vrai ou faux?
Ah, je crois pas, non.
Clémentine, vous voulez peut-être aider Stéphane?
Non, mais là, je crois que ça me paraît... Enfin...
Je pense que c'est lié avec la forme de la souris. Pas seulement la forme, c'est aussi... Oui, la forme.
C'est pas Chirac qui avait appelé ça le mulot?
Je crois que c'est vrai, on a vu cette scène. C'est une bonne réponse, et ça m'écorche la gueule de le dire, mais c'est une bonne réponse de Stéphane Bern. Effectivement, sachez par contre que cette petite souris était en bois avec deux petits trous en métal. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Tanti-Kaltenbach. Est-ce que Jeanne d'Arc aurait pu prendre des cours à l'université d'Oxford?
Ah, alors là, de quand date l'une des plus vieilles universités européennes? C'est Bologne, mais quel siècle? Ça serait plutôt le 12e siècle.
Même quand elle n'a pas réponse, elle en donne d'autres à côté pour montrer.
Moi, je pense que vous allez pinailler, parce que je vais dire oui, elle est morte en 1439, vous allez expliquer qu'Oxford a été créé en 1440. Non, je dirais que oui.
Vous dites que oui, c'est une bonne réponse, donc je ne pinaille pas, vous voyez, je suis bon joueur. Jeanne est née en 1412 et consumée en 1431. L'université d'Oxford, située, ça tombe bien, Oxford, est la plus ancienne université britannique. On a trouvé les traces de son enseignement dès 1096, bien avant.
Vous n'avez pas relevé que je m'étais trompée sur la date de la crémation de Jeanne d'Arc. Oui. Merci Stéphane, j'ai vu dans votre beau regard.
Elle a dit 1439.
Vous voulez qu'on lui enlève un point, Stéphane?
1431.
Vous voulez qu'on pousse le vice jusqu'à lui envoyer un...
Moi, vous savez, je pardonne.
Oui, vous pardonnez, bien sûr. Non, je ne lui enlève pas de point, Stéphane, ça vous ferait trop plaisir.
Dans Historiquement Vôtre... Non, au contraire, j'adore quand elle gagne.
Vous savez, on vous propose des récits, mais rendons à César ce qui appartient à Christophe Ondelat. C'est le maître de la narration sur notre antenne. D'ailleurs, sur europe1.fr, on peut trouver un récit en date du 25 août, intitulé « Truie excommuniée et brebis sodomite ». Vrai ou faux?
Bien sûr que c'est vrai, mais bien sûr.
Oui, c'est vrai.
Les jugements judiciaires d'animaux sont très fréquents au Moyen-Âge, bien sûr.
C'est faux, et Stéphane est tombé dans le piège. Oh. C'est charançon excommunié et brebis sodomite. Un charançon, c'est un insecte de l'ordre des coléoptères.
C'est honteux.
Scandaleux, mais néanmoins, c'est un point qui ne va pas dans votre escarcelle.
Je prends nos auditeurs à témoin. Vous avez vu la perversité de ce garçon.
Envoyez-moi des messages de protestation si vous trouvez que c'est injuste, mais il en est ainsi. On ne peut pas changer le règlement comme ça en cours de route. Stéphane vous a répondu oui, c'était faux. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. En mémoire du Vendredi Saint, les chrétiens mangent du poisson le vendredi. Ça, je pense que vous le saviez tous les deux, même Stéphane. C'est pour ça que McDonald's a créé le menu Filet aux fiches. Vrai ou faux?
Oui, ça, je le crois volontiers.
Vous répondez très vite aux questions. Vous avez vraiment une science infuse. Oui, c'est une bonne réponse. À Cincinnati, aux États-Unis, en 62, Lou Grown possédait une franchise McDo dans un quartier très catholique. Personne ne venait le vendredi. Il a eu l'idée, pas con, de créer le Filet aux fiches. C'est la question qui va vous départager aujourd'hui, la question 5. Sur le plateau de Gizeh, en Égypte, on trouve les célèbres pyramides de Khéops, Khéphren et...
Le Sphinx.
Oh, bah même moi je le sais, ça, Mykérinos. Bah oui, vous connaissez pas ça?
Oui, et alors? Non, mais c'est quoi
je voulais vous tester, c'est des questions dans les questions. C'est le
problème. Ah, d'accord.
C'est Inception, c'est le Inception du quiz, quoi. Il y a différents niveaux. Quel salaire étonnant touchait les ouvriers de l'époque, les ouvriers qui ont construit les fameuses pyramides? Trois propositions. Ils étaient payés en femmes de petite vertu, ils étaient payés en bière, ils n'étaient pas payés, mais on les applaudissait à 20h.
Ils étaient payés en bière, me semble-t-il.
Oui, moi aussi, je pense aussi.
Ils sont trop forts, c'est une bonne réponse. Et oui, les ouvriers des pyramides de Khéops, Khéphren et Mykérinos étaient payés 5 litres de bière par jour. Ça nourrit, ça rafraîchit, et ils pouvaient même la revendre. Mais ce n'était pas nouveau. Alors, en termes de salaire, à l'époque mésopotamienne, on a trouvé une tablette en argile en Irak qui pourrait être le plus vieux bulletin de salaire datant de 3100 avant Jésus-Christ. Qui remporte le quiz aujourd'hui? Égalité dans le quiz, ça vaut quasiment victoire pour Stéphane Bern.
Europe 1, historiquement vôtre.
Notre quiz est terminé, mais historiquement vôtre, ce n'est pas seulement...
La joie de l'humiliation.
Non, Clémentine, c'est aussi la joie d'apprendre en s'amusant.
Oui, Mathieu, restez avec nous, notre spécial Les rigolos de l'histoire continue. Vous ferez connaissance avec Triboulet, le fou du roi François Ier. Et Mathieu, vous nous dresserez comme chaque jour... Le portrait à 99% vrai de celui que vous avez choisi, le meilleur de la catégorie. Aujourd'hui, Jean-Claude Van Damme.
Les gens voient Van Damme en tant Monsieur Muscle, tout ça. Mais aussi une force intérieure que j'ai acquis avec les années.
Ne jamais oublier la force intérieure, Stéphane. C'est le plus important chez Jean-Claude.
(rire) 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignez pour Historiquement Vôtre, l'émission où l'on raconte l'histoire sans se la raconter. Ça, vous avez compris, Mathieu?
Oui, j'ai compris l'astuce, Stéphane. Merci, allez, Finaud. Chaque après-midi, c'est une virée guirette à travers l'histoire qu'on vous propose. Trois personnages très différents, mais avec un point commun. Stéphane, vu la noblesse de son CV, secret d'histoire, monsieur patrimoine, ambassadeur des 500 ans de la Renaissance, ambassadeur Yellow Camping, s'occupe évidemment des personnages que nous qualifierons de classiques de l'Antiquité au 19e siècle. Pour ma part, je privilégie toujours un personnage plus récent.
Oui, vous avez raison, Mathieu. Dans notre spécial Les rigolos de l'histoire, moi je vous ai parlé d'Aristophane et je vais vous parler dans un instant de Triboulet, le célèbre fou du roi François Ier. Et vous, Mathieu, vous avez choisi ?
Ben Jean-Claude Van Damme, Stéphane. Évidemment, il n'y a pas de honte, vous savez, je dresserai son portrait qui sera vrai à peu près 99%.
Et au programme de cette deuxième heure également, Olivier Pouls, notre spécialiste de la bonne chère. Il nous raconte tous les jours l'histoire de la cuisine et nous livre ses recettes. Aujourd'hui à l'honneur, le piment d'Espelette.
Le piment d'Espelette.
Et parce que l'histoire, c'est aussi des mots, j'aurai comme tous les jours le mot de la fin. Aujourd'hui, je vous dirai pourquoi j'ai la pêche.
Europe 1, la pêche. J'ai la pêche aussi, et d'autant plus maintenant que je sais que vous allez nous parler de ce fou du roi, s'il vous plaît, de Triboulet dans notre deuxième récit.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Cet après-midi, dans Historiquement vôtre, on vous fait découvrir les destins de ceux qui ont consacré leur vie à amuser les autres. Stéphane, vous auriez pu à cette occasion brosser mon portrait, ça aurait été assez chic de votre part. Mais afin que ça intéresse nos auditeurs, vous avez préféré nous parler de Triboulet, le célèbre bouffon du roi, ou plutôt des rois.
Historiquement vôtre. Le récit.
Oui Mathieu, le bouffon du roi est le seul à pouvoir parler franchement au monarque sans être inquiété. Il pouvait lui dire ses quatre vérités, le critiquer sur son apparence, sur sa prise de poids, sur ses tenues, ses amitiés, sur ses choix politiques.
Même, oui.
Mais il pouvait tout se permettre
sauf
à une condition, qu'il soit drôle.
Ah oui.
Que ses sorties verbales soient truculentes, qu'elles fassent rire le roi. Il est payé pour dire des âneries et c'est une sorte de contre-pouvoir avec l'accord tacite du souverain.
D'accord.
Alors, le bouffon du roi, c'est pas uniquement le saltimbanque à grelot.
C'est comme ça qu'on le voit un peu dans l'imagerie.
Oui, on l'imagine, à grelot, comme ça, bon, amuser la galerie. Entre le XIIIe et le XVIe siècle, il peut exercer une certaine influence sur le souverain. Et c'est notamment le cas de Triboulet dont j'aimerais vous raconter l'histoire.
Faites donc.
Triboulet naît en 1479 sous le nom de Nicolas Ferial. Dès son plus jeune âge, il est sujet aux railleries. Les enfants et les valets se moquent de son dos bossu, de son physique disgracieux. Longues oreilles, gros nez, petit front.
Il n'est pas le seul, si vous voyez ce que je veux dire, Stéphane.
Bah, bon, c'est à qui ?
Non, personne, c'est pas personne.
Malgré ce physique, Triboulet ne manque pas de ressources. Il décide de forcer le destin. Il se rend à la cour du roi Louis XII et fait visiblement sensation. Le roi est attendri par Triboulet et le met entre les mains d'un gouverneur. Ce dernier a la mission de former Triboulet à la délicate fonction de bouffon du roi.
Il y avait une formation, quoi, une formation comique.
Bah oui, les humoristes, maintenant, ils vont sur un site, vous savez.
Il y a des écoles de comique aussi, j'en ai vu une dans le 9e.
Oui. Délicate mission, car tout le monde ne peut pas devenir comique du jour au lendemain. Encore moins à la cour du roi de France. Triboulet doit être un humoriste polyvalent. Lancer une saillie verbale à une duchesse hypocrite, danser de façon ridicule avec un comte ou faire un croc en jambe à un serviteur, rien ne lui est interdit. Se moquer du roi lui-même n'a pour lui aucune conséquence malheureuse. Élève modèle, Triboulet entre officiellement au service de Louis XII. Sa vivacité d'esprit, son comique naturel, permettent au souverain de se divertir entre deux campagnes militaires. À cette époque, il faut dire que la France est engagée en pleine guerre d'Italie. Louis XII s'empare notamment du Milanais. Le roi, très attaché à son bouffon, n'hésite pas à l'emmener avec lui alors qu'il souhaite conquérir Venise. Triboulet devient l'un des hommes les plus proches de sa majesté. Il se raconte même que Louis XII, friand de ses bons mots, lui fait l'immense honneur de le convier quand il part se soulager. Ah oui, parce que quand vous êtes sur votre chaise percée, vous avez besoin...
Oh, non, mais aujourd'hui, on a notre iPhone. Oui,
non,
vrai.
On a aussi, vous savez, autrefois, de mon temps, on mettait dans les cabinets, l'almanach Vermeaux.
J'ai hâte d'aller chez vous, Stéphane. Je vais passer un très bon moment dans les toilettes. Je vais me prendre la peau.
L'almanach Vermeaux était toujours dans les toilettes. Et bien maintenant, vous alliez à la chaise percée avec Triboulet. En 1515, une date historique qui ne vous a pas échappé. Pourquoi ?
Non, bien sûr,
1515
Marignan.
Et ben, c'est surtout la mort de Louis XII et l'avènement de son cousin et gendre, François Ier, qui lui succède. Si une partie de la cour est rapidement remplacée, Triboulet, lui, reste en poste. A priori, rien ne prédestine François Ier à aimer son bouffon aux blagues graveleuses, aux comportements souvent outranciers. François Ier marque l'histoire de France par son amour pour la Renaissance et l'art italien. C'est lui qui importe ce mouvement artistique dans le royaume. Bien loin des
farces...
C'est un
peu comme si François Pinault avait avec lui Jean-Marie Bigard pour lui faire des blagues quand il est aux toilettes. Quoi.
Exactement.
C'est un peu ça qu'il faut imaginer.
Bien loin des farces et autres extravagances grossières de Triboulet. Pourtant, il adore son Triboulet. Le nouveau roi, 20 ans, il aime cet homme qui lui en fait voir de toutes les couleurs et le fait rire. Mais plus qu'un simple farceur, Triboulet n'hésite pas à s'attaquer aux hautes sphères du pouvoir et à l'église en tête.
Non.
Un jour, le roi et sa cour, assis dans une église, s'apprêtent à assister à la messe. Un silence règne dans l'édifice. Alors que l'évêque débute son psaume, Triboulet lui fonce dessus, lui saute au cou et lui assène des coups de poing.
Mais ça paraît dingue, Stéphane. Il lui arrive rien.
Le roi lui demande les raisons de son acte si violent à l'égard d'un homme aussi respectueux qu'un évêque. Triboulet répond avec malice qu'il fallait bien le punir. Cet homme qui avait osé briser le silence. François Ier, comme à chaque fois, s'en amuse. D'ailleurs, le roi lui cède à peu près tout. Triboulet l'appelle régulièrement « mon cousin ». Quiconque s'y essaierait serait évidemment puni sur le champ. Triboulet, lui, en abuse allègrement. Infatigable bout en train, Triboulet mène une vie agréable auprès du souverain. Sous son règne, François Ier généralise les grandes fêtes. Tournois, danses, bals costumés. La cour est épicurienne et Triboulet n'est jamais le dernier à en profiter et à s'y faire remarquer. Dans un corridor, dans une salle de bal près du roi, le trublion détonne. Son atout, savoir créer la surprise. Capable de péter en plein repas, il peut tout aussi bien se montrer fin stratège et concilier très habilement son souverain. Vous le verrez dans un instant.
Pourquoi dans un instant? Pourquoi pas tout de suite, Stéphane?
Parce qu'on ne peut pas, là, il faut ménager son suspense.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Vous êtes au cœur d'Historiquement Vôtre et notre spécial Les Sacrés Rigolos de l'Histoire. 2 heures pour retracer les destins des pionniers du LOL, des conquistadors du PTDR. Stéphane, vous étiez en train de nous conter l'histoire de Triboulet, le bouffon de François Ier.
Oui Mathieu, Triboulet fait rire, mais pas seulement. Aux alentours de l'année 1520, en pleine confiance après sa victoire à Marignan, François Ier veut de nouveau lancer une offensive en Italie. À l'écoute de cette nouvelle, Triboulet met en garde son roi. Vous parlez tous d'entrer en Italie. Mais personne ne songe aux moyens d'en sortir. Malgré la clairvoyance de son bouffon, François Ier repart guerroyer en Italie. Ce que redoute Triboulet arrive, son roi est fait prisonnier à Pavie en 1526. Subversif, mais pas naïf, Triboulet apparaît comme un homme bien plus éclairé que sa fonction ne le laisse supposer. Mais alors que Triboulet semble vivre sa meilleure vie à la cour du roi François Ier, la présence et le franc-parler du bouffon dérangent. Des menaces pèsent de plus en plus sur sa personne. Triboulet est l'un des seuls à pouvoir parler aussi librement au roi, quitte à tancer des proches de François Ier qu'il juge hypocrite ou malveillant. Et parmi ses opposants, il y a l'amiral Philippe Chabot.
Le grand-père d'Arlette. Bien sûr.
L'amiral.
C'est pas juste?
Non, pardon, je crois pas. L'amiral n'apprécie pas d'être une nouvelle fois l'objet de moqueries de Triboulet et se met en tête de le lui faire payer, quitte à lui ôter la vie. Triboulet en est averti et en informe à son tour le roi qui lui répond « Ne crains rien. Si quelqu'un osait te faire subir un traitement pareil, je le ferais pendre un quart d'heure après ta mort. » L'histoire raconte que Triboulet aurait répondu à François Ier « Mathieu, vous pouvez faire Triboulet ?»
Avec facilité, forcément Stéphane. « Ah, cousin, grand merci s'il vous agrée plutôt de le faire pendre un quart d'heure avant qu'il m'étripe.
» Triboulet semble insubmersible à la cour. Dans les bonnes grâces du roi, il n'a aucune limite. Pourtant, celui qui deviendra le plus célèbre bouffon de France fait la blague de trop.
Comme Tex.
Il s'attaque à l'une des favorites de François Ier. Et pour la première fois, le roi ne le tolère pas. Et il condamne à mort Triboulet. En souvenir des rires que son bouffon a déclenchés chez lui, François Ier lui accorde le droit de choisir la façon dont il veut mourir.
C'est classe.
Le bouffon réfléchit. Et dans une répartie fulgurante dont lui seul a le secret, il répond à son souverain. Faites s'il vous plaît. Ouais.
Bon, sire, par Sainte-Nitouche et Saint-Pansard, patron de la folie, je demande à mourir de vieillesse.
Incapable de résister à cet ultime jeu de mots drôle et habile, le roi,
oui, je l'ai trouvé là, comme ça.
Le roi revoit sa sentence et le condamne uniquement à être banni du royaume. Triboulet mourra en 1536. Et là, c'est pas une blague.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour parler de Triboulet, nous accueillons Didier Le Fur. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Didier. Bonjour. Le Fur, vous êtes historien, vous avez publié un pavé de 1088 pages sur François Ier.
Vous êtes arrêté à la 1086, Stéphane.
Non, je crois que je l'ai parcouru en entier aux éditions Perrin. C'est vraiment ce qui fait référence sur François Ier. Et qui dit François Ier dit aussi celui qui lui collait au Basque Triboulet. Le fou du roi, le fou des rois même, puisqu'il a aussi, si je peux dire, œuvré aux côtés de Louis XII, c'est le premier qui lui fait confiance, en fait. Hein.
Alors, il faut faire une petite mise au point dès le départ. Il y a trois Triboulets. Il y a un Triboulet qui est pour la cour de Provence, pour René de Danjou, et c'est sans doute le plus brillant. C'est celui qui va être le premier bouffon, en fait. Tous les autres fous de roi, ou du roi, ou des rois, sont des vrais fous, dont on se fiche.
On se moque d'eux, on rit à leurs dépens.
Oui, dès le départ. C'est-à-dire qu'on les prend enfants, on les voit grandir. Mais un peu, et voilà. Et ça grandit un peu comme un chien à la maison.
Ils avaient un rôle symbolique, donc, les fous du roi.
Alors, c'est déjà de faire rire, mais on riait d'un pauvre garçon, en général, qui était maladroit
surtout. Mais ça, c'est cruel, alors.
Ah, mais bien sûr, mais c'est pas grave.
C'est
dans l'idée du rire pour les autres, alors que le bouffon, c'est justement un autre rire, c'est rire de soi-même, qui est une évolution, vraiment, dans la notion du rire, parce qu'en général, on se moque tout le temps des autres et jamais de soi.
Et le fou du roi avait donc Triboulet 1, 2 ou 3 avait le sens de la répartie.
Le vôtre, c'est le 3.
Moi, c'est le 3, celui qui aura la vie sauve, parce que justement sa dernière saillie est assez habile et puissante.
Alors il y a toute aussi une mythologie qui va se faire autour de Triboulet, et c'est surtout de la réécriture dans l'histoire de ce personnage qui est une sorte de miroir déformant d'une monarchie qu'on aime bien critiquer, et comme on ne peut pas toujours critiquer, bien finalement, on va donner à Triboulet, on va attribuer à Triboulet.
Il n'a pas vraiment dit tout ce que Stéphane a dit.
Non. En général, souvent, ce sont des mots qui sont repris dans d'autres romans, des romans de chevalerie, des romans comme Robert le Diable ou La Folie de Tristan, qui datent déjà du XIIIe siècle. Et on va utiliser des scènes comme ça et on va peu à peu attribuer, compléter l'histoire de Triboulet. Et
quand on n'assumait pas les vacheries qu'on voulait dire sur le roi, on les attribuait à Triboulet.
C'est ça, exactement.
C'est faux d'air. C'est quand même assez hypocrite. Bon, on va continuer.
Complètement.
Bon, Didier Fur, ne bougez pas. On va continuer à parler de Triboulet. Je vous rappelle que le thème de l'émission du jour sur Europe 1, c'est les sacrés rigolos de l'histoire. A tout de suite.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Nous sommes toujours avec l'historien Didier Le Fur qui a publié une biographie de François Ier pour parler de celui qui l'accompagnait, surtout le faisait bien marrer, le fou de la cour, Triboulet. Triboulet 3, vous nous disiez. Il ne faut pas se tromper. Hein.
Oui, parce que le Triboulet 2, finalement, c'est pratiquement rien. Il meurt en 1510, c'est tout. Mais il devait être important parce que Jean Marot, le père de Clément Marot, lui a dédié deux poèmes et Louis XII lui a payé son tombeau.
On s'attachait à ces
personnes. Oui, mais ils vivent continuellement, comme vous le disiez parfaitement. Oui. Ils vivent continuellement. Donc, peut-être plus de liens avec eux qu'avec ses propres enfants.
Qu'on ne voyait jamais, bien sûr. Et surtout, si vous gardiez votre fou du roi pour aller à la selle.
Ou ailleurs.
Ou ailleurs. On emmenait le fou du roi dans la couche quand on pratiquait d'autres activités.
On ne dort jamais seul quand on est roi.
Mais alors, attendez, comment ça? Le fou du roi assistait à ça et il commentait les ébats?
Il était au fond du lit.
Non, c'est absolument rien, mais il est présent souvent.
C'est marrant, ça. Sur le niveau de l'humour pratiqué par Triboulet, on voit qu'il pétait dans les dîners pour faire rire, ça, c'est pas la Rolls-Royce de l'humour, mais est-ce qu'il y a ça? Et on a l'impression qu'il y a aussi des très bons mots, on a des réparties qui ressemblent à ce qu'on peut voir dans le film Ridicule, enfin, qui sont très très bien trouvées.
Alors, Ridicule,
avec un vrai esprit.
Voilà, on est dans la réécriture du texte, parce que les phrases, on peut absolument pas.
On peut pas
les choper,
ça n'a pas été consigné.
Tout ce qui est oral. Et voilà. Sauf pour le premier, lui a écrit, et donc on sait à peu près les possibles jeux de mots qu'il avait pu faire. Mais en fin de compte, c'est plus par l'intermédiaire d'autres écrivains, d'autres historiens, comme Rabelais par exemple, qui va utiliser aussi Triboulet dans son œuvre. Et là, on sait des actions et on sait des petits mots.
Il avait vraiment un bonnet avec des grelots
Non, ça, c'est le dit.
Non, mais c'est vrai.
La marotte, si.
La marotte.
Alors, la marotte, elle est vieille. C'est déjà pour identifier dans les images, dès le XIe siècle, l'image du fou possédé par Dieu. Oui. Pardon, le diable.
C'est terrible. vous êtes révélé, là. Vous avez fait all-in, là, toutes les cartes, on les a.
Et le, voilà, et donc la marotte est une sorte de bâton pour justement frapper les bons chrétiens. Oui. Et cette marotte-là va devenir peu à peu ce sceptre des fous, du bouffon. Oui. Et c'est un du fou sage et du fou intellectuel. Mmh.
Ouais. Mais un dernier mot quand même, dit Le Fur, sur Triboulet. Est-ce que quand vous êtes fou du roi, que vous entendez tout, vous écoutez tout, vous êtes au courant de tous les secrets d'État, que vous finissez par avoir une certaine influence sur le monarque, parce que
c'est toujours compliqué, parce que le monarque a d'autres influences aussi. Mmh. Il y a des obligations, il y a des nécessités, et même s'il peut parler, il est dans l'état du favori, sans sexe, c'est-à-dire de favori femme ou favori homme, qui peuvent tous parler, conseiller, évoquer des sentiments. Il est au même niveau. Et
il était payé.
Il a une charge.
Bien payé.
Pas vraiment, mais c'est un peu comme.
Il nourrit, loger, blanchi. Hein,
C'est déjà ça, exactement.
Mais avec. C'est des charges de valet de chambre, en fait.
D'accord.
Il n'y a pas de statut particulier, comme pour les écrivains ou les peintres. Il n'y a pas de statut pour eux. Donc, on les rassemble tous dans la notion de valet de chambre.
Merci beaucoup, en tout cas, Didier Le Fur, d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes l'auteur de François 1er. Enfin, plutôt d'un livre qui lui est consacré.
C'est déjà bien. C'est déjà très bien.
C'était ses parents qui étaient surtout les auteurs de François 1er. Et votre dernier ouvrage, c'est Peindre l'histoire, un livre richement illustré, forcément paru aux éditions Passé Composé.
Europe 1, historiquement vôtre.
Ah, on a bien ri avec ce satané Ludion de Triboulet, mais voilà, Stéphane, l'heure est venue de remiser vos livres d'histoire, ainsi d'ailleurs que des expressions comme satané Ludion, car à partir de maintenant, on entre dans la partie moderne, si vous voulez, d'historiquement vôtre. Ça va vous changer des menuets de Lully, mon Stéphane. Dans cette dernière demi-heure, c'est un pont entre les siècles que nous vous proposons tous les jours.
Oui, pour comprendre le monde d'aujourd'hui à l'aune de celui d'hier, avec Olivier Pouls qui nous raconte l'origine des recettes qu'on prépare sans forcément connaître leur histoire.
Oui, ou qu'on fait préparer dans votre cas, Stéphane. Avec l'inestimable,
je ferai une petite chose, oui.
C'est vrai. Avec donc l'inestimable Stéphane qui nous explique comment sont nées les expressions que vous utilisez tous les jours.
Et l'inénarrable Mathieu Noël qui nous livrera le portrait de notre troisième personnage du jour.
Ah oui, Stéphane, on pourrait le présenter comme un triboulet malgré lui, le philosophe belge Jean-Claude Van Damme, avec cette question: et si nous avions en fait affaire à un authentique génie? Soyez charitable, Stéphane.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Alors Mathieu, c'est l'heure pour vous de brosser le portrait de notre troisième rigolo de l'histoire, un personnage souvent plus récents que ceux que moi j'ai évoqués auparavant. Et souvent, ils sont tellement récents qu'ils sont même encore vivants.
Oui, c'est dingue. Alors lui, vivant, bon, oui, il est vivant.
Il est aware, pas exactement, au moins.
Il est aware, je ne sais pas exactement dans quel état il est, mais il est vivant. Je vous parle aujourd'hui d'un rigolo dont on ne sait toujours pas s'il l'est volontairement ou malgré lui. Vous avez parlé d'Aristophane, de Triboulet, le bouffon de François 1er. Lui, il a été le bouffon d'Hollywood. Je me suis beaucoup foutu de sa gueule durant mon adolescence, mais bilan aujourd'hui, lui, il fait la planche dans une piscine de champagne à Beverly Hills, pendant que moi, je fais des cafés à Stéphane Bern, qui est le plus con des deux, moi. Jean-Claude Van Damme ou moi, ce sera à vous de trancher, mais j'ai déjà donné un élément de réponse. Alors, j'ai beau être un de ses principaux exégètes, je ne sais toujours pas dans quelle case classer le poète, le philosophe, le sociologue, l'acteur, le karatéka, Jean-Claude Van Damme. Tout commence le 18 octobre 1960 en Belgique. Belgique, pays bien sûr des arts martiaux, du zen et du thé vert. Bah non.
Chef, un petit verre, on a soif.
Pays de la carbonade, des moules au vin blanc et du jambon à la bière. Bref, pays d'Olivier Pouls. Pouls, Van Damme, deux physiques, deux visions de la Belgique et de la vie diamétralement opposées. Néanmoins, par souci de réalisme, toutes les citations vandamesques du jour seront dites par Olivier. Et le poète disait justement:
une noisette, je la casse entre mes fesses, tu vois.
Fermons les guillemets et réfléchissons. Soit nous avons affaire à la plus solide andouille de l'histoire de l'humanité, soit à un authentique génie. Je veux croire à cette deuxième option, car Jean-Claude Van Damme n'est pas né montagne de muscles discourant sur le sens de la vie sous l'emprise de stupéfiants. Il a d'abord été Jean-Claude Van Varenberg. Derrière ce nom assez idéal pour une carrière de pédocriminel ardennais dans les années 80, se cache un enfant timide et, plus surprenant encore pour quelqu'un qui cassera plus tard des noisettes avec ses fesses, chétif. Jean-Claude est le fils d'Eliana et d'Eugène, tous deux fleuristes. C'est un garçon qui doute beaucoup de lui, un garçon qui aime la musique classique, la danse, la peinture. Puis à 10 ans, il découvre le karaté. Malgré son corps encore frêle, il va décrocher sa ceinture noire en un temps record. Ascension qu'il résumera plus tard ainsi, je cite
« Quand tu prends confiance en la confiance, tu deviens confiant. »
Mais oui, il fallait y penser. Surdoué pour le karaté, ça n'empêche pas de continuer en parallèle la danse classique pendant 5 ans. Étonnant bootleg, me direz-vous, hein, visualiser Jean-Claude Van Damme en juste au corps et Badrine Repetto faire des pliés sur du Chopin, c'est aussi dur à imaginer que Stéphane Bern poussant un caddie chez Lidl avec à la main des coupons de réduction sur les rouleaux de PQ Moltonel Soft Touch. Et pourtant, c'est vrai.
Pourtant, oui.
En 1979, il devient champion d'Europe de karaté et Mister Belgique en culturisme. Mais la Belgique, c'est trop petit pour Jean-Claude, qui rêve d'Amérique. Alors, il apprend l'anglais en regardant la famille Pierre à Feu, ceci expliquant peut-être cela. Dans les années 80, il part à Los Angeles. Pendant plusieurs années, il enchaîne les petits boulots. Livreur de pizza, videur de boîte, poseur de moquettes, chauffeur de limousine. Il peut tout faire, il connaît tous les corps de métier, y compris le BTP, ce qui lui permettra de livrer plus tard de précieux conseils aux ouvriers, notamment celui-ci.
Si tu travailles avec un marteau-piqueur pendant un tremblement de terre, désynchronise-toi, sinon tu travailles pour rien.
Arrivé aux States avec un anglais de fortune bricolé à partir d'un dessin animé, tentant de gagner sa croûte en s'occupant des moquettes de vieilles rombières, et peut-être l'histoire ne le dit pas au sens propre aussi, on se dit que rien de pire ne peut arriver à Jean-Claude Van Varenberg. Et pourtant, si, il rencontre Chuck Norris. Walker Texas Ranger, ça vous parle Stéphane ou pas?
Ah bah oui, quand même.
Vous voyez, hein, bah, pour situer rapidement pour ceux qui ne verraient pas, Chuck
un
Norris,
peu fier.
C'est un gros texan à moustache qui incarne à l'écran un gros texan à moustache et qui se distingue par l'élégance pas du tout british de ses répliques, comme par exemple le fameux
« Si tu pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. »
Vous imaginez facilement le coup de cœur intellectuel entre Jean-Claude et Chuck Norris, c'est un remake de Fouché et Talleyrand, quoi Stéphane. En 85, Jean-Claude obtient son premier rôle dans Le Tigre Rouge en interprétant le rôle du méchant. Petit souci sur le tournage, Jean-Claude a du mal à canaliser son énergie. Il pète involontairement la gueule d'une dizaine d'autres cascadeurs. Sa franchise d'assurance augmente, mais sa cote aussi. Quelques mois plus tard, il va au devant du producteur Menalen Golan à la sortie d'un restaurant en lui faisant une petite démonstration comme ça à brûle-pourpoint d'arts martiaux sur le parking. Le mec est fou en face de lui. Il préfère, pour s'en débarrasser, lui donne un rôle dans Bloodsport qui sera un succès international. Donc là, la carrière est lancée. Universal Soldier, plus gros blockbuster de notre ami Jean-Claude. Varenberg devient un des acteurs les mieux payés au monde, mais très vite, le succès lui monte à la tête. Il se murmure même qu'il aurait refusé un jour une offre d'Universal pour une trilogie avec un cachet de 12 millions de dollars par film, ce qui, même selon vos standards, Stéphane, est quand même correct. Il refuse au motif que Jim Carrey lui ait payé 20 millions de dollars. Le fait que Jim Carrey, lui, sache jouer la comédie ne lui effleure pas l'esprit. Il s'entête. La raison de ce pétage de plomb est à chercher dans cette substance terrible qui cause la perte de bien des stars de par le monde et qu'on appelle cocaïne. Cocaïne, stupéfiant auquel d'ailleurs Stéphane a toujours su dire non.
Je le digère mal.
Oui, mais non, d'un point de vue éthique aussi, tu dis non. Jean-Claude, lui, est plutôt pour. Et hélas, comme tout ce qu'il fait, il le fait à fond. Ses narines vont vite se transformer en deux aspirateurs à schnouf. Le Dyson belge sera son surnom à Hollywood. Des excès qu'il condamne aujourd'hui, déclarant, avec cette lucidité qui n'appartient qu'à lui,
la drogue, c'est comme quand tu close your eyes et que tu traverse la rue.
Contrairement à Doc Gineco, que la drogue a ramolli, Jean-Claude, lui, a la coke violente. Un soir de 97, lors d'une fête chez Sylvester Stallone, Jean-Claude s'approche de Steven Seagal, son grand rival dans le métier à l'époque, et qui est en train de se vanter sur sa maîtrise de l'aïkido. Il fait craquer ses phalanges, et là, devinez ce qu'il lui dit, Stéphane.
Dessine-moi un mouton.
Mais non, faut vous endurcir un peu, Stéphane. Non, ta gueule, Steven. Seagal lui aurait répondu, je vais te botter le cul, le belge. Van Damme aurait rétorqué alors,
vas-y, on sort, je vais nettoyer le sol de mon jardin avec ton corps de merde.
Seagal se serait ensuite enfui comme un lâche. Mais JCVD, c'était pas qu'un bloc de testostérone, c'est également une pensée. Pensée empreinte de philosophie, mais également de religiosité, en tout cas toujours pleine de bon sens, notamment quand Jean-Claude s'attaque à la physique.
Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre et les avions aussi en même temps. L'air, tu peux pas le toucher. Hein. Ça existe et ça n'existe pas. Ça nourrit l'homme sans qu'il ait faim. It's magic. L'air, c'est beau en même temps. Tu peux pas le voir. C'est doux. Tu peux pas le toucher. L'air, c'est un peu comme mon cerveau.
C'est un peu comme son cerveau. Oui, c'est une sorte de Socrate sous stéroïde. Jean-Claude Van Damme a ce don de nous faire douter de tout, y compris de nous-mêmes, notamment la fois où il a déclaré dans un accès bouleversant de lucidité, mais sans se rendre compte qu'il se tirait une balle dans le pied.
Selon les statistiques, il y a une personne sur cinq qui est déséquilibrée. S'il y a quatre personnes autour de toi et qu'elles te semblent normales, c'est pas bon.
Un con ne pouvant pas prononcer une phrase aussi diaboliquement drôle, Stéphane, je viens de démontrer par A plus B avec la complicité d'Olivier Pouls que Jean-Claude Van Damme, né Van Varenberg, est un génie. Merci pour lui, Stéphane.
Merci Mathieu, mais tout était vrai, non?
Et
à 4,
tout
plus
était...
4, 90
non, si, non, y a un truc faux, c'est que Steven Seagal lui a pas dit « je vais te botter le cul, le belge », parce qu'il lui a simplement dit « je vais te botter le cul », car Steven Seagal n'était pas con et xénophobe, comme je l'ai présenté, mais simplement con.
Très bien.
Europe 1, historiquement vôtre.
Le ventre de Mathieu commence à gargouiller.
L'heure, Stéphane, de se faufiler dans les cuisines de l'histoire avec Olivier Pouls, notre expert gastronomique. Chaque jour, il nous révèle l'histoire d'un plat ou d'un produit. Aujourd'hui, le piment d'Espelette.
Oui, je peux le faire aussi avec l'accent belge.
Oh, c'est encore plus fort continuer. De parler de... du piment d'Espelette avec l'accent en belge. Là, c'est la confusion totale. Hein.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter. Deux heures en forme de balade rieuse dans le passé, mais aussi une passerelle entre toutes les époques.
Oui Stéphane, et voici venir justement une bien belle passerelle qui nous aide chaque jour à faire le lien entre ce qu'on trouve aujourd'hui dans nos assiettes et ce qu'il y avait dans celles de nos lointains aïeux. Voici Olivier Pouls pour...
Papy de la Nation.
Bonjour, enfin bonjour Olivier Pouls, je vous dis pas bonjour puisque vous nous avez déjà interprété.
Je vous redis bonjour.
Vous me dites bonjour, mais cette fois-ci avec l'accent français, que vous savez prendre aussi.
Oui, même avec l'accent du Pays Basque, puisqu'on va parler d'une des grandes spécialités de ce beau pays, le fameux piment d'Espelette. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais enfin depuis une bonne dizaine d'années,
on ne voit plus que du piment d'Espelette dans tous les plats, dans tous les restaurants gastronomiques. On ne peut plus, on ne peut pas prendre du piment de Cayenne, on ne peut plus prendre d'autres piments.
Même presque plus du poivre, le piment d'Espelette.
Il est partout.
C'est vrai que c'est bon, c'est original, mais ce n'est pas si récent que ça, puisqu'en fait, le piment d'Espelette est arrivé au XVIe siècle dans la région grâce à un navigateur basque, Juan Sebastián Elcano, qui a ramené ce piment du Mexique. C'est une variété qui est une variété Goria et qui est donc dès 1650 cultivée dans ce petit village d'Espelette où on trouve que le climat est particulièrement
proche
propice.
Du Mexique, c'est vrai. Hein, c'est vrai quand on va à Espelette.
C'est vrai, on a un peu l'impression d'être en Mexico.
Hein. Oui, c'est vrai.
Oui, en tout cas, le climat convient parfaitement bien à ce petit piment qui est d'abord utilisé pour des vertus médicinales. Et il passe côté cuisine, en fait, pour deux raisons. La première, c'est qu'il sert à relever le chocolat en un premier temps. On l'associe beaucoup au chocolat et je vais y revenir parce que c'est vrai que ça marche très bien. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est Bayonne qui est la grande capitale du chocolat en France. Et donc, de Espelette à Bayonne, il n'y a pas long. Mais il est aussi et surtout utilisé comme substitut au poivre. Parce qu'à l'époque, le poivre est rare et il est très cher. Et donc, on va utiliser la poudre de piment d'Espelette à la place du poivre. Et notamment...
À l'époque, c'est pas chic, quoi. C'est comme la rutabaga avec la pomme de terre. On prend ça parce que c'est moins cher.
Surtout dans la région, on en a beaucoup. Il est essentiellement consommé sur place. Et comme il y a une production de jambon aussi dans le Pays Basque, eh bien plutôt que de poivrer les jambons, notamment pour les protéger de l'oxydation, on va utiliser le piment d'Espelette. Et ensuite, eh bien, il va évidemment arriver dans la cuisine de manière un peu plus classique, parce qu'il y a un vrai savoir-faire. Mais c'est vrai qu'il y a un savoir-faire, parce que si vous allez en ce moment, par exemple, du côté d'Espelette, c'est la saison où on récolte le piment. Donc vous allez voir sur les maisons, vous savez, ces cordes avec le piment qui est suspendu. Pourquoi ? Pour le faire sécher, après quoi il va être moulu, transformé en poudre, et vous allez pouvoir l'utiliser dans votre cuisine. Alors, ça s'utilise un peu comme du poivre, d'ailleurs, avec du foie gras, avec du poisson, avec des viandes, avec plein de choses. Mais moi, j'aime bien continuer à l'associer au chocolat.
Oh oui, raconte-nous de quelle manière.
Eh ben je vous offre une recette de tarte au chocolat et piment d'Espelette.
Oui.
Et ça marche très bien. Et alors pour ma recette, c'est très simple, un fond de tarte que vous allez pré-cuire, fond de tarte brisé par exemple, et vous allez la garnir avec une ganache chocolat piment d'Espelette. Alors les proportions, c'est très simple, 300 g de chocolat noir, 30 g de crème liquide, 50 g de beurre. Vous faites fondre tout ça tranquillement, doucement, sans trop les brusquer. Vous rajoutez une cuillère à café de piment d'Espelette, une petite pincée de sel. Vous garnissez votre tarte avec cette ganache. Vous mettez au four 180 degrés chaleur.
Tournante.
Voilà, pendant environ 20 minutes. Mm-hmm. Et dès que votre ganache est prise, vous avez une tarte au chocolat hyper simple, délicieuse, et qui a cette petite touche pimentée, pas trop piquante, mais ça rajoute une dimension au chocolat, et je trouve que ça en exhale les arômes de façon remarquable.
Vous avez bien noté, Stéphane, vous me recevez bientôt,
mais,
je crois.
Mais est-ce qu'on peut mettre la recette sur europe1.fr?
Je pense qu'Olivier
évidemment, mais je vous l'offre, les amis.
Il offre ses cadeaux.
Merci beaucoup, Olivier Pouls, qu'on retrouve chaque samedi à 11h dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte.
Et oui.
Pour toutes vos imitations de Belges, Olivier est aussi disponible pour vos communions, baptêmes, mariages, il est là. Merci Olivier et Stéphane, vous restez avec moi puisque c'est vous qui avez toujours le mot de la fin. Vous nous expliquez aujourd'hui l'origine de l'expression « avoir la pêche ».
Oui.
16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Chaque après-midi dans Historiquement vôtre, on s'intéresse bien sûr aux histoires des femmes et des hommes qui ont écrit l'histoire, mais aussi à l'histoire des mots. C'est une manière de tendre un pont entre les époques, mieux comprendre la nôtre, en comprenant d'où viennent ces expressions que vous utilisez, vous par exemple Mathieu, et puis les auditeurs, en permanence au quotidien.
Mais je ne sais pas si on peut vraiment tendre un pont des époques, vu que normalement un pont c'est plutôt rigide, sauf à Gênes. Mais bon, l'essentiel, que vous nous permettiez de briller chaque soir dans le dîner. Quelle expression décryptez-vous pour nous aujourd'hui, Stéphane ?
Mathieu, parmi vos nombreuses qualités, on peut citer un organe vocal puissant et viril.
C'est juste.
Un charme ravageur dont vous ne vous privez pas d'abuser, notamment sur les stagiaires. Bon, ça c'est hashtag MeToo. Mais aussi une pêche à toute épreuve dont vous faites la démonstration pendant 2 heures tous les jours sur Europe 1 avant de vous écrouler comme un phoque sur la banquise.
Oui, c'est exactement ça.
Au fond, pourquoi dit-on avoir la pêche ? On se souvient tous que de 1986 à 1995, notre radio Europe 1 avait choisi pour slogan « Europe 1, c'est la pêche », arborant fièrement une pêche bleue, certainement transgénique. Et bien sûr, cette formule « avoir la pêche » a deux explications qui sont toutes les deux possibles.
Dites-le.
D'abord, dans la culture chinoise au IIIe siècle, on considérait ce fruit comme étant source d'immortalité. Le poète chinois Zhang Hua décrit un verger dans lequel une divinité taoïste cueillait tous les 3000 ans des pêches. Ces fruits avaient un pouvoir inestimable, celui de devenir éternel. Plutôt sympa, la divinité invitait des simples mortels à venir les goûter. Ces derniers devenaient à leur tour détenteurs d'un pouvoir qui fait toujours rêver. La pêche, le brugnon, comme la nectarine, sont des mutations naturelles de ce qu'on appelait la pomme de Perse, un fruit qui est apparu il y a plus de 3000 ans au nord de la Chine. La boucle est bouclée. Avoir la pêche était donc la garantie d'une santé inoxydable. Seconde explication, la boxe. Donner une pêche, donner une patate sur un ring était la preuve que tout allait bien. En tout cas, plus pour celui qui la donne que pour celui qui la reçoit. Bon, avoir la pêche dans ce sport, c'était la garantie d'avoir la victoire au bout des gants. Dernier point que je souhaiterais souligner, on dit avoir la pêche, mais on dit aussi avoir la patate. Ou avoir la frite venant évidemment de la patate, comme disent les amateurs de complots faciles. Coïncidence ? Oh, je ne crois pas, non.
Merci beaucoup pour ce dernier mot. Historiquement, votre vient, ça sera l'heure du bilan. Stéphane Bern a-t-il été bon ? Je veux dire, en dehors de l'épreuve du quiz. Moi-même, aurais-je apporté ma pierre au noble édifice de l'histoire en vous racontant le destin héroïque de Jean-Claude Van Damme ? Suite à ma chronique, Jean-Michel Blanquer décidera-t-il d'intégrer Universal Soldier au programme de Terminal ? Ce serait convenez-en la moindre des choses.
Bon, en attendant sérieusement, je vous donne le programme de demain.
C'est moins intéressant, mais si vous voulez.
Alors, on se retrouve demain, comme tous les jours, avec 3 personnages de l'histoire en fil rouge, mais qui sont unis par un seul point commun. Dans Historiquement Vôtre demain, François Vatel, vous savez, le cuisinier de Louis XIV, Alexandre Dumas, des amateurs de bonne chair.
Et de bonne chair aussi, écrit différemment, avec Issei Sagawa, le japonais cannibale dont j'ai choisi de vous raconter l'histoire. J'en suis pas peu fier.
Vous n'êtes pas bon ?
Non, non, même pas.
16h-18h sur Europe 1,
Historiquement Vôtre.
Historiquement Vôtre se termine. Vous connaissez désormais la filiation, auparavant insoupçonnable, entre Aristophane, Triboulet et Jean-Claude Van Damme.
Eh oui, Stéphane, ils étaient tous les trois désopilants, quoique dans des genres assez différents.
Et c'est normal, en même temps, ils sont chacun séparés par plusieurs siècles.
Comme nous, Stéphane. Ce qui ne nous empêche pas notre duo de fonctionner, non ? Qu'est-ce que vous faites ? Baissez ce mousquet.
Le coup est parti tout seul.
Bon, il paraît que vous êtes coutumier du fer en même temps.
La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe.
C'est vous la blanche colombe ?
Oui. Je vous dis quand même à demain pour notre spécial amateur de bonne chair.
À demain, Stéphane.
On va se régaler.
Oui, surtout quand vous faites ce genre de bruit.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.